RMC, les grandes gueules.
Il manque 15 000 au moins.
Oh, en plus.
Au moins 15 000 saisonniers pour les producteurs de fruits et légumes pour les aider à faire leur récolte.
Alors beaucoup plus, hein, parce que les chiffres ont été donnés à la fois par le gouvernement et Légumes de France, qui est le syndicat de la profession. Là on parle que pour les agriculteurs, hein, parce qu'il faut rajouter les restaurateurs. Sur 150 000 postes, la moitié n'a pas pu être pourvue. Donc ça fait au moins 50 000 personnes. On rajoute la restauration, ça fait beaucoup de monde. Alors c'est pas la première fois qu'on s'aperçoit qu'à l'approche de l'été, il y a un manque de saisonniers. D'ailleurs, le gouvernement se réveille. Alors, certains disent un peu tard parce qu'ils ont présenté hier leur plan de bataille. Or, bon, on est quand même fin mai et qu'en général, ça doit se préparer plutôt l'hiver. Donc, certains disent qu'il faudrait que le gouvernement se réveille plus tard. Le problème, c'est visiblement surtout le logement, des offres de logement insuffisantes. Bien sûr, le salaire, mais des offres de logement. Le fait qu'on trouve quasiment plus de Français pour pouvoir faire ce travail. Donc les travailleurs qui continuent de venir sont pour la plupart des étrangers, notamment dans l'agriculture. On a même eu l'histoire de cet agriculteur qui a été obligé finalement de laisser sa production par terre parce qu'il n'avait pas les bras pour venir ramasser ses asperges. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on peut trouver enfin des solutions pour qu'il y ait des saisonniers qui fassent vivre à la fois l'agriculture et la restauration et l'hôtellerie?
Willy, toi qui a longtemps travaillé dans le secteur de la fleur, notamment.
Oui, puis bon, qui a beaucoup de familles dans le monde agricole, tout ça. Donc évidemment, c'est un vrai problème. On est plus sur un problème sociétal vis-à-vis de l'agriculture aujourd'hui. Depuis de nombreuses années, on a beaucoup terni l'image des agriculteurs et de ce métier. Travail dans la terre. On a même en campagne maintenant beaucoup de gens qui ont plutôt des notions urbaines que rurales. Y mettre les pieds, c'est pas si facile que ça. Y mettre les mains, psychologiquement, c'est encore moins facile. On a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ne s'identifient pas du tout à un travail même saisonnier dans le monde agricole. Après, il y a une vraie pénibilité du travail, il faut le dire. Moi, j'habite une région, un secteur où par exemple, il y a beaucoup de production, c'est l'Audomarois de chou-fleur. C'est pénible. C'est beaucoup plus compliqué que d'être de faire quelques heures dans un resto.
Comment tu ramasses un chou-fleur alors?
C'est à quatre pattes, c'est le couteau.
Moi,
hein,
il faut
couper le pied. Il y a pas de machine, il y a rien. C'est physique. C'est physique. Alors moi je trouve que c'est plutôt quelque chose d'enrichissant. C'est plutôt un bon moment à passer. T'es quand même dans la nature. Tout le monde pleure pour aller beaucoup dans la nature. Mais dès qu'il faut, on sait Sarah. Mais dès qu'il faut y travailler, on voit ce fossé qui se creuse entre l'appétence que peut représenter la ruralité et le rejet.
Est-ce qu'on n'est pas très éloigné maintenant?
Travailler, oui, mais oui, il y a un éloignement.
Il y a des générations, on avait encore un grand-père agriculteur ou une grand-mère, on allait à la campagne quand on était enfant, ouais, etc. Même si on vivait en ville, maintenant ce lien entre l'agriculture et le monde de urbain est très très éloigné.
C'est-à-dire ça va plus loin. Il n'y a pas que ça. Il y a vraiment une dépréciation de cette activité agricole et rurale depuis de nombreuses années, on le voit bien.
Hein, on a beaucoup.
Là, on revient sur le problème alimentaire aujourd'hui et sur la production agricole.
Ce qui ne veut pas dire
aujourd'hui qu'on n'a pas déprécié le métier de l'agriculture, physiquement, le métier. Et tu demandes à un gamin ce qu'il veut faire pendant les trois mois d'été, ou je sais pas, du saisonnier. Il a aucune envie de se retrouver à quatre pattes à ramasser des choux-fleurs ou des pommes de terre.
Avant, tu passais tes étés, tes vacances chez tes grands-parents qui étaient agriculteurs. T'avais un contact avec la terre, etc. Aujourd'hui,
avec la terre. Voilà.
C'était une résidence secondaire. Ça quand même ça avec un peu
mais aujourd'hui, la terre, c'est sale.
D'abord, on a un premier.
Pas de la terre.
C'est sale. On a un premier fantasme. C'est de considérer que les saisonniers sont des jeunes. D'abord, c'est faux. Les saisonniers ne sont pas des jeunes.
Non, mais il n'y a pas que des jeunes.
Les saisonniers n'ont pas moins de 25 ans. Ils ne sont pas des étudiants qui vont... D'abord, premièrement. Deuxièmement, très important, le saisonnier n'existe plus en France. Le saisonnier existait en France il y a quelques années. Dans le cadre de la NPE à l'époque, ou même du Pôle emploi, le saisonnier existait. Il avait des avantages précis du saisonnier, notamment une prime particulière parce qu'il était, c'était précisément saisonnier, une obligation pour l'employeur de le réembaucher l'année suivante, etc. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Le saisonnier est un CDD comme les autres. C'est-à-dire, il n'a plus une position particulière. Donc, effectivement, beaucoup de gens ont abandonné, à cause de cette loi, à cause de ce changement, ont abandonné l'idée d'être saisonnier. Il y avait, par exemple, des tas de gens qui faisaient...
Donc, c'était un vrai métier il y a quelques années.
Oui, bien sûr. Il y avait, par exemple, des gens qui travaillaient en hiver et en été avec des pauses. Donc, ils travaillaient au ski, ils travaillaient, et puis après, ils allaient travailler au bord de la mer. Ils faisaient moniteur de plongée ou je ne sais pas quoi. Et pendant les temps de pause, ils touchaient. Tout ça est terminé. C'est le CDD. Et c'est un CDD tout à fait normal. Donc ça, déjà, ce statut, d'ailleurs, j'ai entendu que dans le projet de loi, il va y avoir à nouveau une prise en compte d'une véritable existence des saisonniers. Saisonnier, c'était un métier. Donc, et depuis, quand même, ça fait très longtemps que je suis éduc, hein, j'ai toujours connu beaucoup de gens d'origine étrangère ou étrangers qui partaient faire les saisons. Les Tziganes, d'une part, qui venaient de Roumanie et
les Roms, beaucoup
les Roms, et pas mal de gens qui venaient d'étrangers. On a effectivement besoin. Il y a même eu des énormes scandales, notamment dans la vigne, où les patrons allaient chercher des étrangers au Maroc ou n'importe, et ensuite leur promettaient qu'ils seraient régularisés et les lâchaient dans la nature, et ça devenait des gens sans papier. Donc il y a eu des tas de scandales à ce niveau-là.
Tu y faisais allusion il y a un instant aux travailleurs tziganes ou roumains. C'est Guillaume qui veut en parler avec nous, il s'appelle des Pyrénées-Orientales. Il est arboriculteur. Bonjour Guillaume.
Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Bonjour. Justement, les saisonniers, vous en manquez? Vous en avez trouvé? Vous êtes comme votre collègue là du Bas-Rhin, vous laissez les récoltes par terre parce que vous n'avez personne, dites-nous.
Ah non, pour le moment, on arrive encore à trouver. La chance qu'on a, c'est cette arrivée massive de Roumains, grâce à l'Europe, qui sont venus s'installer chez moi dans les Pyrénées-Orientales. J'imagine que c'est un peu pareil partout en France. Et qui sont à la recherche de beaucoup de travail.
Oui.
Et du coup, ça nous sauve vraiment la mise. Moi, personnellement, ça me sauve la mise, vraiment.
De quelle manière et pour récolter quoi, alors, dites-nous?
Alors moi, je fais de la pêche nectarine et de l'abricot. Mmh. Et au niveau, on commence avec l'éclaircissage, c'est-à-dire faire attendre les fruits. Et là, c'est là que ça commence à se compliquer pour trouver du monde. C'est assez rigoureux comme travail. Il faut des horaires. Il faut être là à l'heure. Il faut partir à l'heure. Il faut pas être forcément tout le temps malade. Et en France, les Français, c'est devenu très 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 compliqué.
C'est-à-dire, Guillaume, pour être précis, ça se passe. Quels sont les horaires journée? Ça se passe sur combien de semaines? Dites-nous.
Là, à partir d'aujourd'hui, ils m'ont demandé de commencer à 6h du matin pour éviter les chaleurs.
D'accord.
Donc, on fait 6h du matin, midi, et ils finissent vers 15h ou 16h, ça dépend des jours.
D'accord. Et c'est payé combien?
On est au SMIC classique, quoi, le SMIC agricole.
Tout est déclaré?
Ah, bien sûr, oui. Avec les contrôles qu'on a.
Il va te dire non à la radio, non.
Très bien dit, on peut s'arranger aussi.
15 000 euros, un employé non déclaré qui se fait choper, c'est 15 000 euros pour
lui. Oui.
D'accord. Mais il y a plus de jeunes qui viennent, comme on a pu le faire les uns les autres, donner un petit coup de main là, en disant allez, je viens une semaine, 15 jours avec vous, Guillaume.
C'est comme ça que moi j'ai commencé à travailler dans l'agricole. Voilà. Mais il peut y en avoir, je dis pas, c'est comme pour tous, c'est pas 100% des gens qui ne veulent pas travailler. Maintenant, la qualité du travail, c'est pas la même. On a beaucoup d'absences. Et puis il faut pas se mentir. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'ouvriers. J'ai eu des ouvriers à 10h du matin, 11h du matin, qui m'ont dit c'est bon, j'ai les heures pour le chômage.
Et ah, voilà.
Mais ça, c'est fini. Je m'en vais.
Le saisonnier n'existe plus. Hein.
Je veux le papier jaune. Je veux le papier jaune. Et je voilà. Voilà ce qu'il me demandait.
D'accord. Et là, ça se passe bien avec tous les Roumains qui sont arrivés au cours des dernières années.
Des Roms.
Mon cher Guillaume, ouais.
Oui, ça se passe.
Ils sont installés dans la région, ouais.
Ils ont eu du mal, les pauvres, ils ont eu du mal à trouver des logements, mais dès que le propriétaire. Mais
c'est un problème de logement, ouais.
Après, ils sont pas difficiles entre eux. C'est des familles entières, ils peuvent. Malheureusement, ils vivent à 15 dans des logements. Qui ne sont pas du tout adaptés. Hein.
Ouais.
Ils ont une envie de.
Ils ont le mort aux dents.
Une envie de travailler,
non plus
une
chez
envie
nous
de réussir. C'est
envie. Ah, ouais.
Ouais. Comme tous les migrants, hein, parce que c'est.
Ouais, ouais, mais sur les offres après de logement, comment ça se fait qu'on ne trouve pas de quoi les loger, notamment dans des zones où on sait qu'il y a quand même pas mal de logements vacants?
Je ne sais pas s'il y a beaucoup de logements vacants, mais après, quand on dit roumain, on dit rom.
Ah oui, c'est ça.
On dit délinquant, et quand on dit délinquant,
donc personne n'en veut.
Personne n'en veut.
Bien sûr, et y compris quand on est migrant.
Oui, mais la main-d'œuvre locale n'est pas motivée. Là, il y a un agriculteur qui dit on a du mal à trouver une main-d'œuvre locale motivée. Non, les gens viennent un jour et repartent le lendemain car c'est trop dur.
C'est un problème.
C'est fainéantise des jeunes qui ne veulent pas faire l'effort de travailler pendant l'été. C'est ça aussi.
Je vais vous raconter ma petite histoire personnelle dans les fleurs parce que c'est vraiment significatif de ce qui peut se passer. La saisonnalité.
Rappelle que les fleurs. T'as donc en fait les marchés.
Voilà, les marchés,
c'est
travailler dur et après des magasins de fleurs. Pas mal, dans le nord de la France, on va dire. Et on avait des saisonnalités. La période du muguet, c'est une vraie saisonnalité. Bon, eux, là-bas, d'ailleurs, aussi à Nantes, pour faire que le muguet, bonjour, maintenant, c'est très compliqué. Tu reviens avec ça. Donc, tu avais besoin, je dirais, 150 personnes pour faire les petits paquets de muguet, tout ça. Les dernières années, je savais que je devais recruter 300 personnes. Pourquoi ? Tu commençais, ça commençait à 8h, à 10h, j'avais déjà perdu 20%. J'ai mal au dos. Tous des gamins, des jeunes, j'ai mal au dos.
On est debout.
L'eau, c'est froid. J'ai un peu l'onglet dans le bout des doigts. C'est pas agréable. À la fin de la première journée, j'avais changé 50% des gens. À la fin de la deuxième, c'était les trois quarts.
Ah voilà, donc les gens n'ont plus le goût
et
d'effort.
Et c'était de pire en pire, d'année en année. Et je le dis honnêtement.
T'as dit quoi là?
Alors qu'on était quand même.
Non mais attends, t'as dit quoi là?
Attendez, laissez finir Willy.
T'as déjà bossé dans ta vie, bien sûr. J'ai déjà bossé.
Pourquoi
pas insulter? C'est vrai que.
C'est vrai que nos enfants ont des habitudes de vie.
Mais j'ai pas insulté.
Oui, des habitudes de vie qui sont différentes de ceux
d'il y a plus de 300. Willy vient d'expliquer qu'il commence à 300, il n'y en a plus.
Mais oui,
plus
de 300. Mais oui, arrêtez.
C'est marrant.
Tu ne te sens pas toujours obligé de défendre la défense.
Je dis juste qu'on a l'impression que le monde est fait maintenant, que tous les jeunes sont devenus des fainéants.
Ah, expliquez qu'il commence à 300 et qu'à 10h du matin, il n'y en a plus.
Pas vrai, ça,
Ils ont
Etienne.
Peut-être ça plus de choix aussi.
Pas vrai, ils ont peut-être plus de choix, tu as raison. Et on voit bien que ces métiers-là, de la terre, du végétal, tout ça, c'est pas quelque chose qui les intéresse.
Ça les intéresse pas. Les jeunes ont été élevés dans des conditions, et nos enfants ont été élevés dans des conditions qui font qu'effectivement, il y a un espèce de confort moderne qui fait que c'est plus dur d'être dans les. Mais c'est quand même pas de la faute des jeunes si c'est les parents qui les ont élevés dans ces conditions. Hein. Je rappelle que on est en train d'accuser les jeunes finalement d'être les résultats de leur
personne,
propre éducation.
Mais n'importe quoi.
Merci Guillaume d'avoir été avec nous.
Est-ce que je peux juste
oui, allez-y Guillaume.
Peux rebondir. Moi, je dis juste que les Roumains qui sont là, c'est la première génération de Roumains qui arrivent. La motivation est énorme.
Oui, oui.
Ils ne sont pas encore au courant du social qui est fait en France.
Leurs enfants, ça sera fini. Hein.
Leurs enfants, ça sera terminé.
C'est grave, bien sûr. Entre nous,
les enfants, c'est grave, ça s'est passé pour les Portugais. Ça s'est
travail,
passé
c'est
pour
foutu,
tous les gens qui arrivent en France. La première génération est exceptionnelle.
C'est normal.
La deuxième se dégrade et la troisième ne travaille plus.
C'est normal.
Je sais pas si c'est normal.
Je veux dire normal.
Je dis pas que c'est bien. C'est qu'on a quand même un problème. Il faut bien des gens pour ramasser les légumes.
À un moment, il va y avoir ce que tu dis souvent. Il va y avoir une révolution, parce qu'on va pas juste être une société de consommation. Et on va trouver où le pognon.
Je te rappelle quand même,
on produit plus rien. Le social qui est fait en France.
On exporte n'importe où.
On se tue nous-mêmes avec ce social. Vraiment.
Après, il y a une petite chose, c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, Guillaume. C'est pour ceux qui ont fait les saisonnalités, t'aimais bien aussi, t'avais une partie qu'on te payait aussi
au black,
en liquide. Tu vois, tu repartais, t'avais une partie de ton enveloppe.
Oui, bien sûr, c'est fini.
Vu l'acharnement thérapeutique du gouvernement sur la question.
Je rappelle quand même que tout le monde y trouvait son compte.
Mais
tout le monde
y trouvait son compte.
Attendez, les chiffres sont sortis hier de la fraude sociale. Vous les avez lus? Vous les avez lus?
Oui.
La fraude sociale, c'est 66% les professionnels de santé et 25% les patients qui versent pas l'URSSAF.
Je rebondis tout de suite.
Non mais c'est incroyable.
Comment
parce que vous êtes
estimer une fraude que tu connais pas?
Non mais attends, elle est absolument estimée.
Comment tu peux estimer une fraude que tu connais pas? C'est comme le mec qui dit, mais je suis volé de 50% de ce que j'ai. Ah bon? Alors, c'est qui te vole? Je sais pas, mais je l'estime. Là, on estime une fraude. Faut arrêter.
Vous avez
faut arrêter de prendre les patrons et les artisans pour des mecs qui fraudent à tout ce qui se passe autour d'eux.
On a vu que 66%, c'est les personnels de santé. Ça fait beaucoup de monde, quand même.
Bon, merci à
les
Guillaume.
Médecins, les infirmiers, les ambulanciers.
Merci
c'est
à Guillaume.
Je vois pas comment ils fraudent.
De son témoignage. Attendez. Et donc, Guillaume, si jamais il y a des gens, là, qui veulent venir vous donner un petit coup de main dans les Pyrénées-Orientales, là, vers chez vous, alors, ils appellent qui? Ils vont où? Dites-nous.
Eh ben, ils m'appellent à moi.
Mais comment ça? Votre propriété, votre nom, c'est où?
Oh, c'est une SEA, SEA Alvarado.
L'abricot de Guillaume.
Ouais, l'abricot, la pêche, surtout beaucoup de pêche. sur Perpignan, voilà.
Merci Guillaume d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Dans un instant, on ira dans la Marne. Là, c'est la viticulture champenoise avec Margot. Margot, elle est saisonnière agricole, justement, depuis 10 ans. 10 ans qu'elle fait ça.
Et ce que disait-tu, voilà. Il a raison, c'est un beau statut à remettre en place et à valoriser.
Il y a plus de statut pour ces gens-là.
Et à valoriser.
Donc, c'est comme l'été sur l'arrière, la promenade des Anglais, rue de France, t'as des saisonnières aussi qui arrivent. Ouais. Elles sont tarifées, mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est mais c'est aussi une saisonnalité.
C'est une saisonnalité.
Elles sont à Monaco aussi.
Pareil, tu vois, t'as une saisonnalité. Elles suivent les grands événements sportifs sur la planète.
Allez, à tout de suite avec les grandes.
RMC, 9h midi, les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
On continue notre discussion sur le manque de saisonniers, en particulier pour les agriculteurs dans les champs. Là, on manque de gens. Alors, comme nous disait Guillaume il y a un instant, lui, il a la filière roumaine du côté des Pyrénées-Orientales, du côté de Perpignan. Margot est saisonnière dans la Marne. Bonjour Margot.
Bonjour Margot.
Bonjour.
Merci d'avoir patienté Margot, mais saisonnière depuis 10 ans donc, c'est ça?
C'est ça.
Et pourquoi ce choix? Alors, comment faites-vous? Comment vous êtes-vous organisée? Expliquez-nous.
Alors, je suis saisonnière agricole nomade, donc je suis en camion aménagé.
Oui.
Et ça me permet en fait de faire le tour de France et de travailler au gré des saisons. Donc là, par exemple, je suis sur les travaux en verre, toute la préparation avant vendange en Champagne.
Oui.
Après, normalement, je fais les mirabelles en Lorraine, je reviens pour les vendanges en Champagne. Après, je descends entailler la vigne en Corse, après je fais les asperges dans le Toulousain. Enfin voilà, je fais le tour, ça me permet d'augmenter mon potentiel emploi en fait.
Mais du coup, c'est plus saisonnier, parce que si c'est toute l'année sans interruption, c'est plus tout à fait le statut. D'ailleurs, il n'y a plus de statut de saisonnier.
C'est là où
c'est un peu litigieux, parce qu'en fait, à la base, saisonnier agricole, c'était un métier, justement. Les gens étaient appelés. Parce que c'est ça le problème aussi, c'est que on a précarisé dans tous les sens. C'est-à-dire que comme on n'a pas de CDI, on ne peut pas signer, par exemple, un crédit.
Bien sûr.
Donc ça précarise. Les gens préfèrent aller sur des emplois de longue durée. Pareil pour le chômage. Là, ils ont cassé tout ce qui est chômage de longue durée. Sauf que nous, on est chômeurs de longue durée.
Oui.
Quand on a 15 jours de trou par-ci par-là, c'était eux qui prenaient le relais.
Ça,
maintenant, ça ne fonctionne plus.
Et oui, donc, c'est ça qui a tout cassé.
Hein. C'est l'effet pervers de cette réforme. Mais comment vous logez, Margot?
Dans son camion.
Je suis en camion aménagé parce que justement, encore il y a 15 ans en arrière, les employeurs logeaient. Sauf que la MSA, donc c'est
Mutuelle sociale agricole,
ce qui légifère, c'est ça, l'agriculture, a mis en place des règles très strictes. C'était 7 mètres carrés par personne, voilà. Temps de douche par personne.
Et à du force coup, de mettre des normes à la con dans tous
les cas. C'est ça. Les employeurs n'arrivent plus à suivre à ce niveau-là.
Mais vous avez quel âge, Margot?
J'ai 30 ans.
Vous aimez ce que vous faites?
Oui.
Ouais, mais la vie de famille, ça doit pas être facile, tout ça.
Il n'y a pas de vie de famille.
C'est physique, mais quand on est dedans, après, bon, on est en plein air. Nous, souvent, on travaille à deux avec mon compagnon. Donc, il y a une flexibilité.
Je voulais vous demander votre vie de famille. Donc, vous vivez avec quelqu'un dans votre camion et qui travaille avec vous partout, alors.
Bah oui.
C'est ça.
Ouais.
Et combien gagnez-vous, alors, Margot?
Alors,
en moyenne.
Ça dépend. C'est là où ça dépend. Par exemple, les vendanges en Champagne, en 10 jours, on fait 3000 euros. Après, sur la plupart des récoltes, ça va être du SMIC, et c'est là où c'est vraiment pas attrayant, parce que quand on a un fort rendement, qu'on est 10 fois rentable et que la personne nous paye au SMIC, ça fait pas envie.
Non, ça c'est vrai.
Sinon, en moyenne, on est sur du 12-15 euros de l'air brut, en moyenne.
D'accord.
Mais c'est un mode de vie qui vous convient, en fait.
Itinérant.
Oui, c'est ça.
Le fait de changer tout le temps, d'avoir plein de trucs différents.
Bien qu'on ne trouvera pas 500 000 ou 30 000 ou 40 000 personnes qui vivent comme Margot, qui a choisi ce mode de vie.
Hein. Allez-y, Margot.
C'est pas adapté pour tout le monde aussi.
C'est qu'à la base, c'était un métier vraiment, et qu'à un moment, on a dit job d'été des jeunes qui n'ont pas l'expérience, la qualité, le rendement, le calibre, ce genre de choses. Donc, ils font un peu tout et n'importe quoi, qui n'arrivent pas à subir les chaleurs. Là, en ce moment, on est en train de prendre des coups de soleil. Et voilà, c'est des métiers qui sont difficiles, et comme on les a dévalorisés à un moment donné, les gens n'ont plus le courage.
Bien sûr.
En fait,
mais du coup,
je crois que c'est important de dire qu'il n'y a plus de statut. Je crois que c'est vraiment ça.
Et
là-dessus, c'est pas ce dernier gouvernement, c'est bien antérieur. Mais ça a cassé complètement le statut.
Et du coup, Margot, vous avez des périodes sans travail? ou pas?
Non, je fais 14 mois sur 12.
Ah oui,
voilà. Et Margot, vous allez vouloir des enfants, vous allez devoir vous arrêter, j'imagine.
Non, c'est pas prévu.
Oui, mais non, vous avez choisi un autre mode de vie aujourd'hui.
Ah,
mais en fait, c'est un mode de vie aussi pour vous qui est écolo, quoi, j'imagine, assez écologique, quoi.
Ah ben, complètement, on est très, très peu. Mon électricité, c'est du solaire.
Oui.
On utilise très peu d'eau en général, on est autonome. Voilà, comme ça, on peut arriver partout.
Et vis-à-vis de vos employeurs successifs, cette question-là, par exemple, de l'écologie se pose? Ou, par exemple, est-ce que vous êtes plus sur des... Parce que là, vous parliez de la Champagne. Est-ce que vous êtes sur des vignes, par exemple, qui sont respectueuses ou est-ce que vous...
La Champagne, elle a mis en place beaucoup de normes environnementales, oui, qui se durcissent d'année en année.
C'est pour ça.
Donc, ils traitent de moins en moins.
Oui.
Et oui, ils les subissent, mais c'est quand même pas plus mal parce que... Je me suis retrouvée une fois dans le Beaujolais à traiter au glyphosate le patron qui ne donne pas de combinaison adéquate.
Ah, ou de donc gants, genre, ouais, de ou un masque.
Enfin, voilà. Donc, c'est bien aussi autant pour l'humain que pour la planète.
Ouais, c'est plus d'accord là-dessus.
Margot, sans vouloir vous fâcher avec vos employeurs, mais qu'est-ce que vous préférez, ou la région où vous préférez aller, le moment que vous attendez avec impatience, dites-nous.
Oh, ben maintenant tous, parce que c'est vrai que au fil des années, on a réussi à trouver des patrons qui sont quand même humains. Donc c'est vrai que la Corse pour le cadre. Après, c'est vrai que là, on est en négociation parce qu'il ne veut pas payer.
La Champagne pour les bouteilles de champagne en cadeau que vous avez.
Je suis là, madame, si vous avez besoin.
Il y a toujours la tradition, Margot, de repartir avec quelques caisses de champagne offertes par le viticulteur.
Oui, toujours.
Ah bah ouais.
En Corse, vous ramassez quoi?
On avait beaucoup d'avantages en nature en général. Il y a 3 ans, j'ai fait les huîtres pour la période de Noël, le renfort.
Ah bah oui.
Et avant, tout le monde avait sa bourriche d'huîtres. Et là, ils nous disent, c'est 30% sur une bourriche. Bon, tu vas les garder.
On dit une bourriche.
Là, c'est petit joueur quand même.
Là, c'est mesquin.
Non, mais il faut que les employeurs jouent le jeu aussi. Soit
oui. Et
peu d'avantage en nature,
Margot,
quand même.
Super, des statues, super, il y aura témoignage, Margot.
Génial, Margot.
Merci beaucoup.
Bravo à vous.
Merci à vous.
Super. Bonne vendange, enfin bonne préparation.
Ouais. Les prochaines, c'est quoi là maintenant? Là, vous en êtes où?
Champagne.
Vous êtes où là?
En Champagne, on vient de commencer. On a.
Ah, vous venez de commencer Champagne.
C'est ça.
D'accord. Et les prochains fruits?
C'est normalement les Mirabelles en Lorraine.
Ah oui,
super
Mirabelle.
Témoignage, mais
j'aime bien les
merci
Mirabelles.
Margot. Merci Margot. Merci à bientôt, Margot.
Mais un peu exceptionnel parce que c'est une ça correspond pas vraiment.
C'est un choix de vie
au saisonnier.
Mais qui n'est pas possible
mais
pour
si
tout
on
monde.
Veut des saisonniers, remettez le statut de
un vrai
saisonnier.
Statut.
Qui permet après 3 mois de travail d'avoir 3 mois au Pôle emploi.
On va continuer
et ça et vous retrouverez des saisonniers sans problème.
On va continuer nos témoignages, je se balader là, on était dans la Marne avec Margot. Saisonnière itinérante, c'est ce qu'elle nous a dit.
Nomade.
Avec Alexandre qui est apiculteur du côté des Yvelines. Bonjour Alexandre.
Bonjour Alexandre.
Bonjour les GG.
Salut bonjour Alexandre.
Racontez-nous vous, est-ce que vous cherchez du monde? Est-ce que vous en trouvez? Dites-moi.
Eh bien, depuis le mois de janvier, je cherche un saisonnier. On est quand même à 65 km de Paris. Alors j'ai eu qu'une seule candidature, donc une personne qui venait de Seine-Maritime. Et la personne, au bout de 7 semaines, elle me dit, j'arrête, je préfère rester au chômage. Donc, il m'a planté 2 semaines avant les récoltes de miel, que je termine aujourd'hui, les récoltes de miel de printemps. Et voilà, je fais 85 heures semaine, ma femme aussi, on voit à peine des enfants et on est vraiment KO en milieu de saison et ça va être très compliqué pour la deuxième partie de l'année apicole.
Mais c'est quoi? C'est la pénibilité comment vous l'expliquez, Alexandre?
Je pense que c'est vraiment la pénurie de main-d'œuvre parce que la personne qui était là avant avait un projet d'installation, donc on était prêt à participer en lui finançant des essaims. En lui prêtant notre outil de miellerie pour extraire et mettre en pot ses futurs miels, etc. Il y avait quand même pas mal d'avantages en nature, comme l'aider à s'installer. Mais non, a priori, c'est trop dur. À 18h, il commençait déjà à regarder sa montre pour partir. Donc du coup, ça me stressait.
Il n'y a aucun goût de l'effort.
Il n'y a aucun goût de l'effort. Nous, on a créé l'exploitation il y a 8 ans à base de 2 ruches. On en a plus de 1000 aujourd'hui. On produit du miel, du pollen, de la vie royale. On élève des rennes, des essaims. Mais c'est pas assez, en fait. C'est pas assez attrayant, du coup. Donc,
Quelle est l'indemnité, le salaire? C'est combien?
Alors, je le payais près de 1 600 €, sachant qu'on payait les heures supplémentaires. Il y avait une participation des frais kilométriques, en plus.
D'accord.
Donc, pour le logement, il était à 3 000 € net. Hein.
Et le logement?
Il n'y avait pas de logement, malheureusement, en région parisienne. Dans le Vexin, c'est très tendu.
C'est ça aussi le problème.
Voilà, en région parisienne, c'est le problème.
Oui, moi je pense que le logement c'est le problème numéro un en ce moment des saisonniers. Et alors j'ai vu que François Ruffin il proposait de le camping gratuit pour notamment les étudiants saisonniers. Peut-être une solution.
Oui, mais en fait, encore coup. Faut-il avoir des saisonniers, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et des campings. Oui, mais si on a le logement, on aura des saisonniers.
Oui, mais
justement.
Si on dit, voilà, ça sera plus simple pour vous loger. Si on donne quelques avantages supplémentaires, ça peut rendre plus attrayant cette profession.
Bah, après, le... l'amour du travail, ça commence à devenir compliqué chez nous. Hein.
Ouais, la personne, elle voulait s'installer. Mmh. Un cheptel d'abeilles, ça coûte quand même extrêmement cher. Je suis prêt à mettre la main, entre guillemets, pour l'aider. Mais bon, il préfère rester à la maison.
Ah, mais si les gens visent que le chômage et travailler sert uniquement à obtenir des
Taux de chômage. Touche le chômage, c'est qu'il a travaillé.
Le chômage, pour le toucher, il faut avoir travaillé.
D'accord,
il faut avoir travaillé 6 mois déjà.
D'accord, mais s'il travaille uniquement dans le but d'obtenir le chômage.
Alexandre?
Il avait un CV perlé déjà, ça m'avait un peu mis la puce à l'oreille. Et comme j'ai eu qu'une candidature, j'ai dû choisir par défaut.
C'est le principe du chômage, tu n'as pas le chômage et tu ne travailles
d'accord,
pas.
D'accord, mais si tu travailles dans le but d'obtenir le chômage, et là il y avait des signes avant.
Le problème c'est qu'aujourd'hui il y a un système, c'est que tu fais quelques mois, tu te touches le chômage,
tu fais
quelques mois,
tu fais travail, chômage.
Je te rappelle que c'est exactement l'inverse. Avant il fallait 3 mois, aujourd'hui il faut 6 mois, donc c'est exactement l'inverse.
Et le principe reste le même.
Travailler plus longtemps. Tu voudrais quoi? Que les gens qui se retrouvent, par exemple, à la fin de la saison, ils ont travaillé 6 mois, on est en fin de saison, parce que là, on nous donne des cas.
Il faut
la
un
plupart
chômage.
Du temps, les gens travaillent. Ils se retrouvent au chômage et qui ne touchent rien.
Là, il est parti plus tôt. C'est ce qui t'explique,
parce
en fait.
Parce qu'il avait calculé qu'il avait ses 6 mois.
Merci, Alexandre.
C'est particulière.
Salut, Alexandre. Et si on veut vous rejoindre, attendez, si on veut vous donner un coup de main, on sait jamais, via les GG, dites-nous, est-ce qu'on peut vous trouver, donner le nom de votre exploitation?
À Breuil, en Vexin, à côté de Gargenville, près de l'autoroute. Et si vous voulez nous contacter, c'est lesruchersd'alexandre.fr.
Merci Alex, merci d'avoir été avec nous. À bientôt Alexandre. Et puis on va terminer avec Brice qui est serveur. Il n'y a pas eu de serveur encore, on était dans l'agriculture. Brice qui nous appelle de Seine-Maritime. Bonjour Brice.
Bonjour l'équipe, bonjour les GG.
Alors,
c'est Brice Dieu.
Mais c'est Brice Dieu.
Ben oui, c'est moi.
Parce que j'étais pas là quand il était venu avec vous.
Brice, vous faites que ça, c'est ça, rappelez-nous. Rappelle-nous, parce que maintenant, suis-toi, on se connaît bien.
Bah oui, bah moi, en fait, c'est pas vraiment de la saison, ça pourrait être considéré comme tel, mais moi, le métier, comment je le fais, en fait, on travaille toute l'année, on a du boulot tous les mois. C'est pas encore comme les saisonniers qui travaillent de décembre jusqu'à avril et de juin jusqu'à septembre.
T'as un contrat mensuel renouvelé?
Non, moi, c'est pareil, c'est que des petits contrats, en fait, mais ce qu'il y a, c'est qu'avec mon boulot, j'ai du boulot toute l'année, tous les mois.
Ah, voilà. Il va de foire en foire, de fête en fête.
C'est des CDD, des suites de CDD.
Voilà, exactement.
Tu peux pas le faire à l'infini, les suites de CDD.
Et donc, tu as
avec le même employeur.
Tu es un peu comme Margot dans l'agriculture.
C'est plus ou moins le même principe, mais en restauration.
D'accord. Et tu taffes toute l'année?
Toute l'année.
Et là, en ce moment, tu travailles où, alors?
Bah, là, c'est la semaine de grand repos avant l'armada à Rouen.
Ah oui, la grande amana, c'est la réunion des voiliers.
Est-ce que
tu
as une prime de précarité sur ta fiche de paye à chaque contrat?
Non.
Bah non.
Voilà, c'est ça qui a été supprimé, puisque 10% quand on était sur un CDD et que donc on était en insécurité d'emploi, nous avions, et je l'ai fait moi-même, une prime qui s'appelait la prime de précarité, qui effectivement nous attirait un certain nombre de gens sur des CDD courts en remplacement. Aujourd'hui, cette prime a disparu, ce qui fait qu'effectivement nous n'avons plus aucun avantage à être en CDD, sauf à choisir une vie comme Brice, qui est une vie un peu plus aventureuse.
Après, c'est surtout aussi, c'est pareil, on en revient au même, c'est le statut qui avait avant à Pôle emploi, quand il y avait en restauration, comme nous on avait par exemple le régime 23, tous ces régimes-là ont été supprimés.
Bien sûr.
Le problème, c'est que tous ces gens-là qui bénéficient aussi de ce système-là, c'était des vrais professionnels aussi des saisons, des mecs qui vont bien bosser.
Ouais, bien sûr.
On en a eu pendant un moment beaucoup qui sont partis en Suisse parce qu'en France c'était plus assez intéressant.
C'est ça.
Parce que les saisons aussi, les trois, avant ça payait. Maintenant c'est les trois quarts du temps. Vous avez quoi? Vous avez 300 euros de plus que le SMIC.
C'est ça.
Si vous êtes logé, il faut voir la tranche du logement. Ouais. Soit c'est hors de prix, soit c'est insalubre.
Ouais.
Ça donne pas envie.
Donc il faut rendre plus attractif ce métier-là.
Remettre le statut que nous avions.
Et le logement,
les heures pas payées, les 7 jours sur 7. Si on est payé correctement, c'est pas un problème, on peut les faire, on les enchaîne, on sait le faire. Mais quand vous êtes payé à coup de lance-pierre, qu'il faut
SMIC améliorer et un truc insalubre.
Les heures pas payées, en restauration, c'est un scandale.
Bien raison. Merci. Bon, après Brice, c'est quand même une vie de bohème extraordinaire, ça, Brice.
Ça permet de voyager, on ne sert jamais.
Ouais.
Et là, après l'armada à Rouen, tu vas où, Brice?
Douai, début juillet. Après, je vais à Rethel dans les Ardennes, à Cambrai et à la foire expo de Chalon.
Ah oui.
Et là, tu auras fait l'été, en fait.
Là, j'aurai fini l'été.
Et le logement, tu les trouves comment?
Bah, c'est Airbnb.
Okay. Ah bah tiens, mon cher Brice, je te remercie d'avoir été avec nous. Bonne saison, Brice. À bientôt.
Il paye lui-même.
Salut, Brice.